Après le cinéma asiatique, nous allons donc passer au cinéma international, ce qui nous a marqué en cette année 2017, notamment en termes de films et d'événements. On va commencer, comme tout à l'heure, par un premier tour de table. Je vais demander à chacun d'entre vous donc votre événement cinématographique de 2017. Horace, Elias.
Pour moi, c'est un film qui est, que je trouve qui a été reçu de manière assez agressive et assez négative, qui est pour moi largement le film de l'année, c'est Mother, de Darren Aronofsky, qui est... qui pour moi, vraiment, ça faisait très longtemps, enfin non, 30 ans, non, ça fait depuis The Strangers, qu'en fait, qu'un film m'avait pas autant pris en fait sentimentalement et en fait avait fait littéralement ce qu'il veut de moi pendant 2 heures.
Il t'a harcelé, tu le dis.
Il m'a totalement harcelé sexuellement. Balance ton film. Non, mais concrètement, genre, Mother pour moi, c'est vraiment. Enfin, moi je suis quelqu'un qui est au cinéma, j'ai fait ce que j'aime, c'est vraiment qu'on me fasse ressentir des choses au maximum, même si parfois du coup c'est un peu lourd au film que j'aime bien et que c'est un peu du coup pas très fin. Dans les règles que j'aime bien, certains sont pas très fins, etc.
Tu défends la part des de cinéma alors.
Non, mais ça dépend des films. Mais, mais voilà, pour le coup, Mother, je trouve que c'est un film qui, s'il n'est pas toujours fin, s'il n'est pas toujours réussi, par ses maladresses et par les tentatives qu'il fait et par la manière dont il le fait, en fait vraiment emporte le spectateur dans. En fait, le force à ressentir des choses très négatives, ou positives pour certains, si on est un peu sadomasochiste comme moi, et qui en fait, du coup, pousse le spectateur à vraiment prendre une position et avoir une réaction par rapport au film qui peut être épidermique comme extrêmement jouissive. Et moi, pour moi, c'est vraiment le film de l'année, c'est l'expérience de l'année. Et pour moi, c'est... Voilà, moi, je trouve ça, c'est un film extrêmement rare. Je trouve ça très, très triste, en fait, qu'il ait eu, du coup, une réception aussi...
Non, mais justement, c'est ce qu'il voulait.
Aussi soupolée.
Triste. Et je trouve ça incroyable. Après, moi, j'ai l'impression qu'autour de cette table, Mother a plutôt été défendu.
Oui, on est bien. En plus, Scorsese, il a dit que c'est bien. Nous, on dit que c'est bien.
Okay. En fait, c'est un gros suiveur, ce mec.
Au moins, je suis Scorsese.
Antoine, je crois que Mother était d'ailleurs dans ton top 10 cinéma.
Absolument, je confirme. Il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions, que ce soit dans le Charlie Hebdo, le cinéma ou dans d'autres cercles. C'est un film qui a beaucoup clivé, effectivement, qui a déchaîné les passions, même de la part de personnes qui suivaient beaucoup Aronofsky. Qui avait beaucoup aimé même certains de ses films les plus exacerbés comme Black Swan ou dans un genre plus conceptuel comme The Fountain et des gens qui derrière n'ont pas suivi Mother alors que son concept est un des plus transparents, des plus limpides, des plus clairs, des plus frontaux, car Aronofsky a eu le culot et même quelque part presque la candeur, il y a une forme de candeur dans le film et d'abandon où il se met à nu comme jamais. Et c'est un peu le film le plus Aronofsky.
C'est même étonnant que tu dis qu'il y ait des gens qui aiment Aronofsky qui n'aient pas aimé celui-ci.
Ah, j'ai pas dit qu'ils aimaient Aronofsky, j'ai dit qu'ils ont aimé certains films d'avant Aronofsky. L'amour comme les succès au cinéma sont parfois liés à des malentendus. Voilà.
C'est comme tu dis, c'est le plus Aronofskien, c'est le plus, c'est vraiment le plus extrême.
Et d'une cohérence absolue par rapport à ce qu'il a fait avant. C'est aussi ça qu'il faut.
Samir, quel serait ton événement de l'année?
C'est, comme je disais au début de l'émission, l'année dernière, je n'ai pas trop fait de... Enfin, je ne suis pas souvent allé au cinéma, mais... Bon, la Saint-Neuf, ce n'est pas forcément un événement, mais c'est une espèce de conclusion à quelque chose que j'avais déjà vu il y a quelques années de cela. En fait, je me suis... Enfin, vers la fin de l'année 2017, il y a eu comme ça une espèce de... Il y a eu des films qu'on a vus ici en France qui viennent d'une géographie cinématographique bien précise, qui est l'Algérie. Et ces films-là, ça fait plus...
On a pas dans les hirondelles.
Par exemple, donc celui-ci est bien heureux de Sofia Diama. Et ça doit faire peut-être 7-8 ans que quelque chose est en train de se faire là-bas en Algérie. Et on commence à en voir les prémices ici, maintenant. Et donc, c'est intéressant de voir que, comme par exemple ce que nous avions constaté au début des années 2000 avec le cinéma... d'Amérique du Sud, ou même le cinéma qui venait de Corée, hein, où il y avait comme ça une espèce de mouvance qui fonctionnait et qui fonctionne encore. Et là, il y a commencé à avoir des films qui arrivent et qui sont pas forcément mauvais, qui en même temps, je trouve, plaisent aussi à des critiques, au public. Et c'est pas un événement, mais c'est intéressant de voir ça. Et voilà, donc je sais pas ce qui va se passer plus tard. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir qu'il y a une cinématographie qui est en train de revenir. Et ça, voilà.
Oui, pour moi, mon numéro 1 de l'année, c'était La La Land de Damien Chazelle. Donc, c'est un film que je trouve que c'est par rapport à son premier Whiplash. Donc, il a réussi vraiment à tisser une sorte de pont entre le passé et le présent, tout en évitant la nostalgie, puisque tout le film, voilà, ça répond à une espèce de reproduction impossible d'un idéal par rapport à l'imagerie qu'il a de la comédie musicale. Et je trouve qu'il arrive à retrouver ça. C'est quelque chose qu'il y avait déjà dans Whiplash, mais il le retrouve avec un traitement plus coloré, mais même si tout en y inscrivant une mélancolie qui fonctionne de plus en plus pendant le film, alors qu'il y avait un côté plus rentre dedans dans Whiplash pour parler de la même chose. Donc je trouve qu'il y a quand même l'émergence d'un grand réalisateur. Voilà, dès le deuxième film, il avait déjà impressionné. Là, il y a quelque chose quand même.
Son troisième, il s'attaque quand même à du très.
C'était sur Neil Armstrong.
First Man. Ouais.
Ouais.
Il fait pas une série sur Netflix avant
Ouais, française d'ailleurs. Ouais,
je crois que le film est déjà en
tournage. Marseille 2.
On n'est pas bien là.
Non, parce que c'est un peu quand même un espèce de plus grand mythe américain. Et du coup,
On est curieux de. En plus, ça rejoint pas. Ça a l'air d'être assez différent de ce qu'il explorait dans les deux premiers. Donc
avec Ryan Gosling qui joue Neil Armstrong.
En plus. Bon.
Voilà. Neil Armstrong, ça se rapprocherait de Whiplash. C'est un peu la même.
Je ne connais pas trop Seb. En dehors qu'il a été sur la Lune, je ne connais pas trop la.
Neil Armstrong. Neil Armstrong. Le premier homme sur la Lune.
Il a quand même. Il
aurait pu.
Parce que là, il y a un peu de whitewashing.
C'est ça, attention. Mais du coup, on l'a déjà accusé de whitewashing.
Non, mais même Neil Armstrong, de toute façon, il peut broder sur les mêmes thématiques. Je pense que ça peut le. Là, le dépassement de soi, etc.
On trouve déjà dans La La Land, de toute façon.
Oui, bah oui.
Une abnégation complète.
Voilà, parce qu'on sacrifie tout.
C'est ça.
Le sacrifice pour le rêve.
C'est ça. Donc je pense que ça ne sera pas éloigné. Je pense
assez réducteur comme thématique et comme vision du monde que peut avoir Damien Chazelle.
Ça y est, le petit tacle en passant.
On pourrait parler aussi de comment il voit la musique noire. Mais ça, c'est autre chose. On pourrait en parler, ça aussi.
Malgré la présence de John Legend.
Ouais, mais il est ridiculisé.
Mais que dit John Legend aussi, c'est problématique, mais bon. On
Bonjour Adèle.
Salut.
Donc, tu es une plume historique d'Istadia et tu étais là, on t'a entendu au podcast de Twin Peaks.
Exact.
Et donc j'imagine que ton événement de 2017.
C'est Star Wars 8. Non, c'est Twin Peaks évidemment. Bah, bon, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans le podcast, mais quand on se retrouve face à une œuvre comme ça, évidemment, on a envie d'y rester plongé, d'y rester un moment, de la disséquer et d'essayer de toucher l'infini qui est là-dedans. Donc bon, je pense peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais mais voilà, c'est on avait dit qu'on ferait un podcast partie de c'est peut-être
Twin
le moment
Peaks, le podcast The Return.
Donc ouais, non, Twin Peaks, c'est bon, après si je devais citer un deuxième truc, je n'y en aurais pas vraiment parce que j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup en salle cette année, donc je vais rester sur Twin Peaks.
Jérémy,
moi comme Justin, c'était mon numéro de l'année, c'était La La Land, mais comment
non, je sais lequel tu vas prendre.
Ah bon, je vais parler de The Lost City of Z parce que ah merde,
non,
mais je peux parler d'un autre si tu veux. Non, mais je vais parler d'un autre. Je vais juste dire rapidement sur The Lost City of Z. Ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment un retour à un vrai film, d'un vrai grand classicisme à l'ancienne qui devient fascinant à regarder, etc. Donc après, je vais te laisser en parler. Je vais parler aussi d'un film que peu de personnes ont parlé, c'est le film de Gore Verbinski, Cure for Wellness, qui s'est vautré totalement au box-office partout. Les critiques l'ont démonté aussi, il me semble. Et pourtant, c'est un film totalement foutraque qui est parfois écrit un peu assez bizarrement, mais il y a une telle volonté de proposer une ambiance gothique, violente et crade, mais avec une photo
et
magnifique.
Et puis transgressive, pour ceux
transgressive
qui l'ont vu, parce que la fin est quand même...
Je ne vais pas non plus parler de l'intrigue, mais il y a une telle ambiance dans ce film qui marque vraiment, quoi. Et il y a des visions qui ne nous quittent pas, et je trouve que c'est vraiment un film...
C'est un réalisateur sous-estimé.
C'est un réalisateur très sous-estimé. Parce qu'il n'y a pas de...
Bah, on va dire entre il a des fans, mais en vrai
et Lone Ranger,
c'est génial,
tous ces films d'avant.
Non, mais il a des fans entre mais je veux dire entre dans la critique entre guillemets, quand tu vois des réalisateurs de gros films comme ça qui sont encensés.
Non, on parle de Gore Verbinski là, mon gars.
Ah, pardon,
On parle pas de James Gray.
Oui, parce que James Gray, du coup, a une défense critique qui existe depuis.
Il est déjà parti.
Depuis, a aussi une légitimité, c'est les amateurs de.
Le Mexicain, quand même.
Popcorn,
la souris, c'est
au sens noble du terme, c'est-à-dire
c'est lui la souris.
C'est, la souris,
c'est peut-être l'un des rares réalisateurs de blockbuster américain qui respecte son public et quand il crée du spectacle.
Et qui a des audaces formelles et des voilà, audaces thématiques.
Qui prend au mot le mot spectacle.
Parce que même dans ces films qu'on peut dire qu'ils sont à moitié ratés, genre les deux derniers Pirates des Caraïbes, il y a des séquences.
Très bien, voilà.
Il y a des séquences dedans où tu t'es dit.
À la fin du 2, la séquence de, par exemple,
du Kraken,
sur la roue.
C'est pas que la fin.
Il y a des séquences, tu te dis, dans un film à 250 millions de dollars, il te fait des trucs comme ça. Et je trouve que.
Non, mais parce qu'en plus, on l'a sous-estimé. On l'a sous-estimé pour les Pirates des Caraïbes. Une fois qu'on en a eu deux autres,
voilà, on a
c'était d'autres personnes aux commandes, on a vu la différence.
Il a vraiment, en fait, ce qui a gêné dans la trilogie, c'est qu'il parfois il a vraiment poussé la mythologie dans un côté complètement irréel.
Attends,
qui a beaucoup de gêné.
Et pour revenir sur
Pirates des Caraïbes,
A Cure for Wellness, c'est ce qui est intéressant, c'est que vraiment il fait la même chose qu'il faisait dans ses autres films. Il va où il a vraiment où il a pas le droit d'aller, on peut dire. C'est qu'il va toujours, il côtoie les limites qu'on lui impose et il les dépasse tout le temps. Il sort du.
On lui a dit.
Il y a un rail comme ça, il y a le train, d'ailleurs, il y a le plan là que je vois, là, il y a un train comme ça. Et le plan avec le train qui dévie, et voilà, le miroir, et c'est son cinéma quoi.
On lui a dit,
va sur les rails, mais lui.
Les scènes avec les dents, les gens les aiment pas ça.
Voilà, il t'arrache des dents dans un blockbuster.
Et puis honnêtement, la fin, un film qui a coûté 150 millions comme ça.
Il a coupé.
Je dis pas, voilà, je laisse les gens découvrir, mais.
C'est
crade, voilà, la révélation, il y a une espèce de twist final. Dans un film aussi cher, voilà, il y a un truc qui est censé cartonner, oser. C'est un retournement
final. Non, mais moi, j'ai beaucoup été impressionné par le Gore Verbinski. Et en plus, j'aimerais ajouter que si on regarde un peu, c'est un cinéaste qui est ultra politique, en fait, dans ses films post-Pirates des Caraïbes.
Lone Ranger, notamment.
Ben oui, Lone Ranger et celui-ci. Qui en fait montre et qui part seulement sur le postulat qu'en fait.
Même Rango.
Oui, Rango aussi. Et qui part sur le postulat que justement les gens qui sont les pontes du libéralisme, en fait le libéralisme c'est une sorte de maladie.
En fait, le Lone Ranger c'est son film anti-américain, c'est un blockbuster à 200 millions sur le génocide indien, et celui-là c'est un film sur un film anti-capitaliste à fond.
Et Rango c'est
pareil aussi.
Rango c'est Chinatown en animation.
C'est ça. Donc il y a toujours un sous-texte,
Ouais, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il met la forme à des idées qui sont assez subversives, en fait. Un peu comme Carpenter à l'époque, toute proportion gardée.
Puis il a beaucoup plus de moyens que Carpenter, en plus, quoi.
Et son hommage à la Hammer a été vu comme un effet de série Z, c'est un peu dommage.
Et
un autre...
Oui, mon autre film, c'est Certain Women de Kelly Richard, que j'ai adoré, pour présent, mais surtout pour un segment qui... Moi, m'a particulièrement intéressé pour le film, c'était le segment entre l'histoire de Kristen Stewart et l'actrice Lily Gladstone, qui est traité de manière très, très vaporeuse, très lente et très épurée, et qui, justement, me rappelait le cinéma de Chantal Akerman, ou un cinéma plus européen, ou voire asiatique, qui, justement, Kelly Richard flirtait depuis le début de sa carrière, mais qu'elle arrive à atteindre un certain degré de grâce dans ce film, et...
Ça dit beaucoup avec des petits riens. Puis il y a ce côté western aussi où il y a des plans super iconiques.
J'ai un problème avec le deuxième segment quand même. Mais dans le film.
C'est lequel le deuxième?
C'est Michel Williams. Avec les cailloux, je sais pas quoi. Disons qu'il s'inscrit très bien dans le film, mais en tant que segment lui-même, il n'est pas.
Et voilà, mais tout le monde parle de. Tout le monde nous a gonflé avec Patty Jenkins ou Wonder Woman. Pourquoi elle n'est pas aux Oscars, machin, mais personne ne parle de Kelly Richard qui nous fait un vrai film féministe. Des vrais portraits de femmes c'est pas caricatural, il n'y a pas les gros sabots, on ne va pas lui dire. Voilà, c'est des trucs qui effleurent. Quoi,
moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il
nous touche. Quand
elle arrive, au-delà de ses personnages et des enjeux de ses films, c'est comment elle arrive à créer une ambiance, à filmer l'Amérique en fait,
et à
créer une espèce d'ambiance.
C'est vaporeux quoi, c'est vaporeux, vraiment ça.
Mais en fait, t'as envie d'y être. Pas forcément avec les personnages, mais dans cette ville-là, dans cette
petite. Dans sa manière de diriger les acteurs. Ouais. Quand tu vois le segment avec Laura Dern par exemple,
mais il est surtout vers la fin où justement c'est censé être de la tension et tout.
C'est ça, mais il y a toujours un truc, il y a toujours un plan avec un regard, un truc. qui nous accroche, quoi.
Antoine, est-ce que tous ces films entrent du coup dans la ligne éditoriale ? Est-ce qu'on est bien dans la ligne éditoriale d'une fois le cinéma ?
Alors, il y a des conférences assez étonnantes, bon, de la part de Justin, notamment. Je connaissais déjà ton top, et c'est vrai que La La Land est parvenu d'ailleurs en tête, de peu hein, d'ailleurs, du top 10 de l'ensemble de la quinzaine de rédacteurs des Actual Cinéma. Hein, c'est sorti vraiment du sondage comme le numéro 1. Moi, c'était mon numéro 2, personnellement. Donc, voilà, c'est vraiment un film qui a marqué. Malgré les débats, il a aussi des détracteurs. Hein, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui adorent les comédies musicales classiques, pour cette raison précise, n'aiment pas La La Land. Et pour moi, il faut l'aimer. Enfin, on peut l'aimer aussi pour d'autres raisons, notamment par rapport à la façon dont il brise le miroir aux alouettes et la manière dont il parle de la désillusion, mais ça t'en as bien parlé tout à l'heure, c'est beaucoup un film sur l'illusion et la désillusion, et notamment les 15 dernières minutes du film sont absolument magnifiques. C'est une réminiscence des Coda, de Chansons sous la pluie ou Tous en scène, sauf que c'est fait un peu à rebours. Ils refont le film en fait depuis le début, en imaginant une sorte d'histoire parallèle.
Et là où c'est totalement idéalisé hollywoodien,
c'est quasiment copié-collé aussi de l'imagerie qu'il peut y avoir à la fin de Chansons sous la pluie ou Tous en scène, et c'est traité d'une manière... je trouve avec une maturité et surtout un recul dans lequel il n'y a aucun cynisme, aucune ironie vis-à-vis des films d'origine. Aujourd'hui, ce genre de fringale citationnelle, c'est souvent accompagné d'une forme d'ironie, de cynisme, de moquerie. Nous, on sent chez Damien Chazelle une forme de déférence, mais une déférence intelligente qui n'est pas une déférence aveugle.
Bah non, parce que justement, le fait que les gens n'aiment pas parce que c'est pas assez classique, c'est que lui, il a quand même réussi tout en rendant hommage à tous ces films-là, à trouver sa propre voix, notamment dans le casting des acteurs, la manière de mettre en scène ses chorégraphies, beaucoup plus de manière naturelle.
Alors, j'allais y arriver.
Donc, d'ailleurs, ça se voit dans les reproches que certains amateurs de comédie musicale peuvent faire au film. C'est par exemple, genre, ils dansent pas bien. C'est totalement voulu, quoi.
Ils dansent pas bien, en plus.
Non, mais c'est pas virtuose, quoi.
Ils font de la danse par rapport à une fois par semaine.
Mais c'est pas Fred Astaire, quoi.
On est largement au-dessous. Il y a même un critique qui a écrit qu'il dansait comme des patates. C'est un peu méchant.
Mais il y a même des critiques d'analyse de mouvement.
Et beaucoup qui reprochent au film de trop travailler sur le mouvement de caméra. En disant que la chorégraphie, elle est plus au niveau des mouvements de caméra qu'au niveau vraiment de la chorégraphie des acteurs, même s'il y a des deux. Et c'est pas totalement faux, la caméra est effectivement prima donna dans le film. Mais moi, mon émotion de l'année, juste pour enchaîner très rapidement dessus, c'était Lost City of Z. Et là, c'est marrant parce qu'on est aussi dans une réminiscence d'un cinéma classique américain. Alors, de la part d'un réalisateur un peu plus âgé que Damien Chazelle, et qui est défendu par la critique, qui a eu énormément de mal à faire des films pendant très longtemps, hein, comme vous savez bien. Et Lost City of Z, c'est un très vieux projet. Bon, d'ailleurs, il a hérité, qui n'était pas du tout naturel pour James Gray. Il y avait Brad Pitt qui voulait pousser le film, il y avait Spielberg qui était pressenti, et puis plein d'autres réalisateurs. Et c'était pas du tout naturel que ce soit James Gray, cinéaste
urbain,
intimiste, psychologue.
C'est super intimiste.
Et c'est ça qui est formidable, c'est que ce film, ça se veut une aventure extérieure dans la jungle, mais c'est d'abord une aventure intérieure. Puis une sorte de qualité onirique dans le film liée à la photographie de Darius Kandji, très certainement. Quelque chose un peu cotonneux, vibratif.
Mais qui est logique au final.
Exactement. C'est vraiment comme une tapisserie, mais une tapisserie vivante. Enfin, c'est un film extrêmement émouvant, je trouve, sur la quête de l'impossible, où il y a une dimension familiale aussi, d'ailleurs, à la toute fin. Et là, on retrouve le James Gray.
C'est la plus belle fin de l'année.
Le père et le fils.
Le plan final.
Oui,
le plan final est magnifique.
Mais Gray, de toute façon, à chaque fois, ses plans de fin,
c'est toujours. Absolument. Je trouve que c'est un de ses plus beaux films. Même si là, c'est pas le film le plus grayen de Gray, si on peut le dire comme ça.
C'est trop le plus.
C'est un de ses meilleurs films. Il est très classique, mais il n'est pas du tout académique. C'est ça qui est beau.
On avait parlé avec Nicolas à l'époque, justement, quand on l'avait vu. C'était justement, je trouvais que le film...
Bien, mais bon.
Non, mais le film était trop classique, parce que justement, il fait des plans magnifiques, et comme il suit une sorte d'académisme et tout, par exemple...
Ça
suit quand même un carcan hollywoodien qui justement, fait que le film est bloqué dans un aspect. Par exemple, quand il y a un plan, à un moment, ils sont sur une espèce de colline, c'est beau. Darius Kandji, tu sens qu'il a mis tout son effort à faire la photo, à rendre ça très pictural, mais ça dure 3 secondes. Un truc comme ça. Et je dis, mais c'est pas possible en 2018 que cinéaste fasse un tel point de 3 secondes. Je veux dire,
c'est complètement il n'est pas là pour aberrant. Faire du contemplatif.
Oui, oui, mais justement, le film parle de ça. Il évoque ça. Il dit, c'est oui, des gens qui restent. Des fois, le personnage reste comme ça, il rêve. Et je me dis, mais nous, on nous permet pas de rêver, justement. C'est ça que j'ai trouvé complètement.
Ils s'en séparent très vite, en fait.
Non, c'est que justement, les images ne restent pas. Pour moi, elles disparaissent.
Bah, moi, par exemple, la fin avec Autour du Feu, quand. Pas trop spoiler, mais toute la séquence finale avec. Le Persifo 7, on n'a jamais su où il a disparu, en fait on sait pas si où il est mort. La manière dont il traite cette mythologie là,
le
personnage qui a disparu dans la nature,
le film suit un programme,
qui s'est évaporé, la manière dont il le traite dans le film par l'intime et aussi par cette espèce de
oui, il suit un scénario comme ça, alors qu'il pourrait se laisser aller à des moments et il suit un programme comme ça.
Pas cette question de faire durer un plan sur la nature. C'est un choix de.
Non, mais c'est juste un symptôme de truc qui frappe.
Ok, il y a la beauté qui est là, le personnage.
Oui, peut-être sur les personnages.
Il ne fait pas attention à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a pas d'importance, et on n'est pas là pour ça, c'est pas nous qui
avons. Et puis il bloque plus sur.
On va s'arrêter pour.
Non, mais justement, on nous parle d'un personnage rêveur et tout, et nous, on ne laisse pas le temps d'apprécier.
Non, mais en fait,
il le montre plus obsession.
Voilà, il montre plus l'obsession du
côté rêveur du personnage.
Il n'est pas là pour regarder.
Lui, il n'est pas rêveur, le personnage, il est obsédé.
Mais si, on pense qu'il revient chez lui, il est perdu, il n'est pas avec sa famille et tout.
Non, mais justement.
Moi aussi, je veux sentir ça. Et je ne le sens pas parce qu'on suit un programme.
Mais tu le sens.
On suit le scénario de James Gray. On suit le scénario du truc. Moi, j'aimerais sentir aussi que.
C'est un homme qui aimerait être avec sa famille. Mais il aimerait être avec sa famille, mais il est rongé par son obsession.
Non, moi, le scénario me dit qu'il aimerait être avec sa famille, mais je ne le sens pas.
Non, mais en fait, c'est pas l'objet de l'obsession qui intéresse Gray, c'est l'obsession en elle-même. C'est pas l'objet de l'obsession.
Le parcours et la destination.
Exactement. On te le dit pendant tout le film.
J'ai vu le parcours du scénario, j'ai pas vu le parcours des personnages, j'ai vu les choses.
Comme ça, c'est un ressenti, c'est pas vraiment ce qui est ce que.
J'ai vu les choses. Mais si, parce que comme je t'ai dit, justement, le traitement du temps montre bien qu'il suit un truc, et genre, je me dis, il peut se permettre des moments quand même dans le film que des trucs qui.
Mais tout le monde suit un truc, je sais pas, Chimino, il suivait un truc aussi, quoi.
Donc, oui, d'autant qu'il y a.
Mais Chimino, ça dure combien de temps, genre, ça
fait
combien de temps, genre, le
viande. Mais il y a les impératifs aussi, quoi.
Voilà, c'est ce que je te dis.
Attends, il y a l'influence de Chimino et de Coppola, parce qu'on peut penser à Apocalypse Now aussi.
Oui, bah oui.
Coppola, justement, combien de temps dure. Regardez comment
ça. Il avait pas les mêmes liberté.
Il y a un autre film dans le même style, enfin, ça.
Et toi tu parles de Herzog, mais Herzog il prend le temps de.
Non, mais justement, c'est bien ce que dit.
Herzog, on reste avec Claude Kinski sur le bateau comme ça. Je sens la folie de monter là, j'en sais rien du tout.
C'est pas la même manière d'aborder le voyage du personnage dans la manière.
Oui, pour moi, c'est justement, je vous ai dit, pour moi, c'est une manière trop classique. Pour moi, c'est un cinéma dépassé.
C'est une manière plus
intéressante. Non, pour moi, c'est plus sur le. Et je pense que c'est James Gray, il y a souvent une dimension déceptive qui est assumée. Et qui, avec ce film ne recherche pas le spectacle. À tout prix.
Comme nous appartient, c'est pareil.
Oui, mais je comprends qu'il le fasse, par exemple, dans un contexte moderne, c'est-à-dire dans son contexte urbain. Pour moi, c'est cohérent.
Je vais aller plus loin. Le film peut être décevant si tu cherches une dimension sensorielle et contemplative qui est beaucoup plus forte dans les films de Terrence Malick, par exemple.
Oui.
Si tu compares ce film au Nouveau Monde, clairement, il est très en deçà en termes de contemplation. Mais c'est autre chose. J'aime beaucoup le film. Oui, absolument. Voilà, voilà. Je pensais exactement
pas du tout. Les trajectoires complètement différentes. Si tu veux, tu l'as vu,
l'Ivraie du Serpent. L'Étreinte
du Serpent. Voilà. Sorti à la fin de l'année
dernière. Là, t'as ce que tu voudras.
Mais c'est très différent, effectivement. Mais voilà, on peut apprécier les deux. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans la même disposition d'esprit pour.
Mais on peut, voilà, il invoque un cinéma, il invoque un cinéma classique de l'époque, mais c'est un peu, on peut rapprocher de La La Land aussi là-dessus.
Je comprends pas. Si on reproche ça à James Gray, je vois pas comment on peut ne pas le reprocher à Damien Chazelle. Hein.
C'est le même discours, c'est le même discours.
Parce qu'il y a dans La La Land un cynisme et un cynisme des personnages et des situations qui est très contemporain.
Pas du regard du cinéaste. Le cinéaste qui est pas cynique sur ses personnages, Damien Chazelle.
Non, il est pas cynique, mais les personnages, eux, le sont. Ils sont dans leur. Alors que dans le film de James Gray, j'ai l'impression qu'on suit un truc, on suit une vision qui ne colle pas aux images que je vois. C'est juste que ça s'enchaîne, comme justement le ferait le cinéma classique hollywoodien, ou un enchaînement d'événements de succès. Sauf que pour moi, ça fonctionne pas de faire ça en 2017.
Alors, on va finir le tour de table, du coup, Nicolas.
Moi, je vais citer Blade Runner 2049, personne n'a cité.
Et sinon, et concernant la danse aussi, j'aimerais dire Jeannette aussi, cette année.
Non, j'adorais Jeannette. Non, mais Blade Runner, parce que j'aime bien le premier, je suis pas un immense fan du, pro, premier, mais je trouve déjà qu'il y a quelque chose de... J'aime beaucoup le premier, c'est pas
c'est bon, tu laisses pas intimider là, t'aimes pas le premier, c'est tout.
Assume mon gars. Avec toi, parce qu'il y a des choses en rapport avec la cinéma de Ridley Scott qui ne me plaisent pas forcément, mais ça c'est plus général. Mais sinon, le Blade Runner 2049, je trouve que c'est exactement ce que je voulais voir, en fait, du début à la fin. C'est... j'aime beaucoup Denis Villeneuve, moi je ne suis pas comme certains podcasteurs... défoncer à chacun de ses films
sur la place de Paris. Voilà.
Et je trouve que c'est l'un des cinéastes contemporains qui a une force dans l'image le plus dévastatrice de ces dernières années. C'est-à-dire que chaque film, en fait, je trouve qu'il arrive à créer avec une ambiance qui c'est exactement ce que je cherche quand je vais au cinéma. Et avec Blade Runner, il le fait pendant 2h40. Et contrairement à ce que beaucoup disent, non, c'est pas trop long, le rythme n'est pas trop lent, c'est exactement ce qu'il faut pour raconter son histoire. Et au-delà de ça, c'est un film sur le souvenir qui m'a profondément marqué, et sur l'existence en elle-même, en fait. C'est vraiment quelque chose qui interroge l'existence même de l'humain, et qui m'a profondément marqué, et puis j'ai pas vu le repasser.
Et puis il arrive à rendre contemporaine les thématiques du premier Blade Runner à travers la romance.
Il y a des séquences absolument incroyables.
Moi j'ai absolument aucun souvenir de l'histoire. Par contre,
mais toi t'as comparé ça avec...
Ah non, mais pas du tout, moi j'aime beaucoup Blade Runner.
Pour le podcast précédent au Japon, t'avais comparé ça au rythme de Jojo's, alors ça n'a rien à voir. Jojo's, il n'y a pas de rythme.
Il n'a pas digéré ça, il nous le fait nous dire depuis deux semaines.
Jojo's, c'est arythmique, alors que Blade Runner, il y a un rythme lent.
Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Justement, j'ai être positif, je ne vais pas être négatif. Moi, j'aime beaucoup Blade Runner plus que Jojo, qui n'est même pas dans mon top 100 de l'année. T'inquiète pas. Enfin, moi, vraiment, j'ai l'histoire, je vais me retenir. Par contre, je trouve que visuellement, je pense que c'est peut-être le film qui fait le meilleur usage de la technologie moderne d'effets spéciaux qu'on a vu à ce jour. Et t'as des séquences visuelles que je n'ai jamais vues de toute ma vie auparavant au cinéma, et avec une telle maestria, avec une telle réussite. Et je pense notamment à la scène est-ce que c'est vraiment une scène de sexe? Pas vraiment,
juste une scène d'amour.
Scène d'amour, qui est pour moi, je pense, la plus grande séquence de l'année. Je trouve que visuellement, elle est incroyable, et on est arrivé, je pense que c'est vraiment, le cinéma, ça doit être ça, quoi. C'est quelque chose qui veut dire des choses par l'image, et par l'image et par cette scène, Villeneuve, tout ce qu'il y a à dire dans cette séquence. Et justement, je trouve vraiment incroyable. Pour moi, c'est vraiment une séquence qui m'a énormément marqué. Et je sais pas.
Puis quand, pour revenir à Twin Peaks, je trouve que... Non, mais je trouve que le film partage, le film partage beaucoup de choses avec Blade Runner sur ce discours sur la nostalgie et sur l'œuvre originelle. On parle beaucoup de Blade Runner dans la suite. Et sur ce qu'on attend et ce qu'on n'a pas forcément, et ce que nos souvenirs font aussi par rapport à une œuvre, le souvenir qu'on a d'une œuvre,
c'est qu'il arrive à créer des séquences qui auraient pu être des séquences de rêve ou de cauchemar, mais qui sont vraiment intégrées au final dans le parcours du personnage.
Et je reviens à la séquence où on voit Sean Young en performance capture. Là, c'est la première fois que je vois une utilisation pertinente de ce truc-là, quoi.
Ouais,
parce que là, on voit une Sean Young qui est Young, justement.
Et
on sait, nous, on sait que c'est pas vrai.
Voilà. Et lui aussi,
il y a quelque chose de très émouvant, quoi. Et c'est la première fois au cinéma que je vois une utilisation pertinente. C'est pas les gars en dégueulasse là à la fin de Rogue One, quoi. Ça veut dire quelque chose, et c'est vraiment.
Quoique Peter Cushing était plutôt convaincant
en vampire, un peu
émacié. Il était super effrayant, quoi.
C'était très impressionnant.
Ouais. Mais moi, du coup, pour conclure un peu tout ça, mon événement de l'année, c'est Twin Peaks. Et je pense
qu'on
pense pas de toute façon. En termes, que ce soit cinéma ou
série, ça qui va rester,
à la fin des années 2010, c'est Twin Peaks qui restera.
La Land, on en parlera plus dans deux ans.
Pour prendre le pari, on en reparle dans un podcast. comme l'œuvre étalon de ce qu'est le cinéma et une œuvre contemporaine, en fait, de ces années-là. Et c'est vrai que tout le reste paraît un peu... un peu anecdotique à côté. Alors moi, j'ai adoré Blade Runner, du coup, c'est mon numéro 1 de l'année. Et c'est vrai que ça, enfin, par rapport à ce qu'est Twin Peaks et à ce que, enfin, au monument que ça peut l'être, c'est un peu... Voilà, c'est du cinéma qui reste que du cinéma, pratiquement. Alors par contre, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a dit, et dans tout le tour de table, et Twin Peaks en fait d'ailleurs partie, c'est qu'on a beaucoup parlé de cinéma américain. L'année dernière, à la même période, on n'a pratiquement pas parlé, il me semble, de cinéma américain, si ce n'est pour dire que Hollywood se portait très mal. Or là, on a eu quand même des propositions entre Gore Verbinski, entre certaines women dans le cinéma indépendant, entre Blade Runner, qui est une grosse production, grand public, où il y a des affiches 4x4 partout dans le monde entier lors de sa sortie. Voire même des films de super-héros un peu originaux. L'année a commencé avec Logan, qui ressemble à un film. C'est un des seuls films de super-héros où on se dit, tiens, ça ressemble à un vrai film. Du coup,
Logan,
il faut le prendre en tant que...
Dans le film, peut-être, on aurait pu parler aussi de Dernier vol de la planète des singes.
Oui, voilà. Donc,
il n'était pas si mal que ça.
Donc, j'ai rien complètement là-dessus sur le... Est-ce que le cinéma hollywoodien reconnaît, ou en tout cas, a un nouvel essor et comment vous l'avez perçu, et est-ce qu'il peut y avoir encore des propositions esthétiques intéressantes? Parlons de tout ça.
T'as plombé le truc.
En 2016, blockbusters, le moyen des blockbusters de 2016 était vraiment à un niveau très, très 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 bas, et cette année il y a eu quand même des propos. Bon, il y a toujours les mêmes moyens, enfin les films très moyens, voire mauvais habituels, mais il y a aussi vraiment des propositions de faire des. Parce que Blade Runner, c'est un blockbuster.
C'est un blockbuster.
Voilà. Mais est-ce que Blade Runner est considéré comme un film marginal, et tous les films dont on a parlé comme des films marginaux?
Je pense que les producteurs ne s'attendaient pas à ce que Villeneuve fasse ce genre de truc, je crois. C'est pas possible.
Moi, ce que je
on donne pas 200 millions pour. On donne pas 200 millions à un mec comme ça.
Tout le monde disait Ridley Scott est vraiment impliqué dans le projet, il est quand même au script, machin, tout ça. Et au final, tu te rends compte que Villeneuve, il a vraiment...
Le bon Ridley Scott, on continue à donner de l'argent.
Et là, dernièrement, Ridley Scott, il a dit « Ouais, je trouve le film une heure trop long », des trucs comme ça. Enfin,
il n'était pas impliqué dans le projet, il lui a donné carte blanche. Ils se sont juste rencontrés avant pour comment
justement, justement, si vous me confirmez ça, parce qu'il y en a d'autres qui me disaient « Non,
après, Villeneuve, lui, le
dit. » Là, apparemment, il va refaire une suite à celui-là en étant beaucoup plus impliqué. Parce que
il, c'est Ridley Scott.
Ridley Scott, parce qu'il n'est pas si fan que ça du film.
Non, mais lui, il a un ego de toute façon.
Ridley Scott a fait deux films sur l'année, en plus. Ça, c'est très symptomatique. Ridley Scott, ça fait une quarantaine d'années qu'il fait des films. Enfin, depuis la fin des 70, ses plus grands films, d'ailleurs, sont les premiers, comme Blade Runner.
Il y a au moins 5 ou 6 premiers.
Et les deux films qu'il a cette année, qu'il a eu cette année, vous voyez bien Alien Covenant, dont évidemment personne n'a parlé, et pour cause. Bah oui, pourtant Alien Covenant. Et pourtant, tout le monde se souvient du premier Alien qui reste... Voilà, d'une part, ça permet de réhabiliter Prometheus rétrospectivement, tu vois.
C'est dur.
Mais vraiment, hein. Je l'ai revu, je suis toujours très partagé, mais il y a des choses. Je dis pas que Alien Covenant est totalement mauvais, mais c'est vrai que si on le remet en perspective par rapport au premier Alien que Ridley Scott a réalisé il y a presque 40 ans, on n'est pas du tout au niveau d'ambition, esthétique.
Prometheus, il y a plein de problèmes aussi, mais il y avait Lindelof qui apportait... En fait, Lindelof, il a fait son Lindelof, c'est qu'il avait apporté une mythologie en plus de celle de base, où il posait plein de questions métaphysiques, mythologiques, qui n'avaient pas de réponse par rapport aux créateurs, les machins, les trucs.
Et du coup, ça continue.
Après, Ridley Scott, il a repris à 100% du truc, et il n'a pas du tout su s'en dépatouiller. Il a essayé de rapporter ses réponses par rapport, en essayant de rattacher à sa propre mythologie alien, sauf que ça ne marche pas, c'est nul.
Et puis même, ne serait-ce que formellement, Prometheus, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, ne serait-ce que formellement, il n'est pas photo quand même avec...
Ridley Scott, en une scène, il crame tous les créateurs... Hop, c'est fini, on passe à la question suivante. C'est...
Mais quand même, il y a une question quand même du rapport au créateur à sa création, qui est la question que...
Il y a la première scène qui est la meilleure scène du film. Quoi.
Mais oui, c'est
et
ça.
Et t'as l'impression que c'est genre une réminiscence justement de ce que Villeneuve aurait pu continuer si lui avait signé...
Et puis même de l'époque Blade Runner. C'est une réminiscence volontaire de Ridley Scott de l'époque Blade Runner.
Ouais, c'est ça.
Comme s'il voulait faire une boucle, réflexion sur l'intelligence artificielle, la création, des murs.
Il est un peu. C'est très classique de Ridley Scott, ça. C'est ce côté révisionniste et opportuniste où il arrive et il se dit ah tiens, ouais, ça colle là, on peut faire un truc. Et puis hop, il arrive.
Il a 80 ans, il a jamais eu autant envie de filmer que
Non, mais il a des impôts à payer, je pense.
Mais c'est vrai que c'est
un peu plus. Je vais crever dans 5 ans, il faut que je fasse le plus de films possible.
C'est ce que tu disais, Jérémy, sur le fait qu'on a eu beaucoup d'œuvres comme Twin Peaks ou Mark Frost et David Lynch reviennent effectivement donc 25 ans après sur leur propre réalisation. Ridley Scott l'a fait également donc par l'entremise de Denis Villeneuve. Dans d'autres cas, on a eu un énorme revival en fait de créateurs qui revisitent leur œuvre. Des fois, pour, là, je suis en train de regarder la saison 11 de X-Files, qui est encore pire que la 10. Parce que justement, la réponse, c'est d'essayer de refaire le même tout en s'adaptant à peu près à l'époque, ce qui ne marche plus du tout. On l'a vu avec Blade Runner et Twin Peaks, ce qui marche, c'est justement de proposer quelque chose qui colle.
Enfin, ce qui marche artistiquement, ce que le public n'a pas. Blade Runner n'a pas marché.
Financièrement,
ouais,
pas du tout.
Du coup, il y a deux ans,
internationalement,
parce qu'une exception.
Mais bon, c'est pas un succès.
Du coup, on peut se poser une question. Là, on parle à juste titre d'un renouveau du cinéma américain, en tout cas d'une certaine qualité du cinéma produit cette année aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a parmi ces films qu'on a cités des films qui seraient un peu neuf, un peu comme Alien ou Blade Runner pouvaient l'être en leur temps, des films qui vraiment représentent.
Non, parce que c'est que
des,
c'est que des films que référentiels. C'est que des films qui invoquent le passé. Totalement. Et on est en plein dans l'ère de la nostalgie.
Amy Turé Mother, c'est un des rares.
ça ressemble à rien d'autre. Quoi.
Qui ressemble à rien d'autre et qui ne fait pas référence.
Chazelle, c'est la même chose. Hein. C'est,
ah, totalement.
Soit James Gray, Chazelle, c'est comment une mythologie du cinéma américain.
Et surtout qu'il est extrêmement jeune. Enfin, il est très très jeune. Pas autant que certains ici, mais. Et pour un cinéaste qui a fait, qui en est déjà à son deuxième long métrage et qui a eu un énorme budget pour La La Land. Oui, t'as raison, il en a fait un.
Il a quel âge?
Il a 31.
Il en a fait un.
Ridley Scott, il faut avoir en tête, je crois qu'il avait
40 ans. Il avait 40 ans, il a commencé tard, il a fait 10, 15 ans de publicité avant de.
De son compte, il a 80 ans aujourd'hui, il a commencé il y a 40 ans. Il avait fait beaucoup de pubs, enfin, Alien et Blade Runner ont.
Ouais, il avait déjà un savoir-faire complètement abouti au moment d'arriver.
Le débutant au cinéma, il partait pas de zéro, c'est sûr.
Et voilà, tous les films qui marchent actuellement.
Mais oui.
Même quand tu parlais de la planète des singes.
Mais après là, on parle que des blockbusters aussi. Si on parle, on descend au grand.
Non, mais les films dont on a parlé en fait.
Si on fait une aparté sur les gros blockbusters de l'année.
Il y a moi qui ai vu The Florida Project justement de Shane.
C'est très bien
Florida
Project.
C'est bien.
Très bien. Voilà. Bah c'est aussi c'est un film complètement intéressant. Et c'est aussi une vision justement de l'Amérique actuelle que je trouve. Bon, le réalisateur a un style très particulier, très pop, très exacerbé, très.
Wes Andersonesque.
Pas tant que ça, parce que Wes Anderson, c'est plus dans le cartoon. Là, c'est pas très cartoon. Mais ça part de l'Amérique Trump et enfin l'héritage de la crise financière et ce qu'elle répercute.
Ça, c'est le nouveau en septembre, ça.
Aujourd'hui. Bah oui, non, mais en fait, avec le film de Martin McDonald, qui n'est pas sorti, mais qui sort là en 2018, c'est vraiment les premiers films de cette ère Trump qui est tout cette misère que ça va engendrer, ou que ce soit au niveau
de
on verra
des
la prochaine
ça, je pense.
Moi j'attends le
clip de sur la carte. Sors la carte, les 8 salopards là tout de suite.
Non,
mais
le prochain Clint
Eastwood. Mais Get Out, oui, on n'en a pas parlé de Get Out. Parce que là, c'est relativement nouveau. Enfin, nouveau. Ça s'inscrit dans un film de genre, ils influencent à Lynch, ils influencent même à Tarantino.
Je l'ai entendu, mais je l'ai dit, Get Out, comme on dit.
Mais il n'est pas dans le citationnel ou la reproduction.
En fait, dans ce que ça raconte, c'est une reprise de. Un film qui a été d'ailleurs remaqué dans les années 2000, mais un film des années 70 qui s'appelle Les Femmes de Stepford, où c'est le même postulat. Tu remplaces les noirs par des femmes. Enfin, c'est des femmes, des épouses, des femmes d'intérieur qui sont remplacées par des robots.
On va nuancer un peu la nouveauté.
Donc le postulat est.
Elle répond aussi à une certaine.
Il y a la mouvance
nostalgique et il y a la mouvance aussi, quoi. Voilà, c'est la société qui est en ce moment en train de changer, etc.
Pour le cas de Get Out, l'actualité a dépassé le film et justement, je pense qu'il y a une vision corrompue du film sur ce qu'il est vraiment par rapport à l'actualité. C'est-à-dire, Get Out, on a une surimage de Get Out alors que le film, c'est une série B bien réussie, bien
ficelée. Mais ça ne dit pas plus sur la
condition noire aux États-Unis.
J'ai pas
vu le film, comme d'habitude, je vais parler sans avoir vu le film. Mais ça parle du racisme, etc., quoi. Donc ça a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, quoi.
Si vous voulez, en fait, s'il y avait des portes ouvertes, mais qu'elle avait besoin d'être enfoncée par un film grand public à ce moment-là, on aurait dû l'être, je pense.
Mais s'il y avait un film qui parlait de la condition noire de manière nouvelle et et même avec une nouvelle forme.
Qui est-ce qui produit ça?
Ce serait Moonlight. Moonlight, l'année dernière, c'est le seul film qui a parlé de
Jeff Bloom. C'est une production de Jeff Bloom.
C'est Bloom. Voilà.
Vous avez peut-être en tête le duel des Oscars. L'Oscar des meilleurs films, avec d'ailleurs le film le plus
blanc de tous les temps entre Moonlight.
Alors voilà, La La Land, c'est vrai qu'on... C'est pas vu sur cet angle-là, mais...
C'est White à mort, quoi.
C'est vrai qu'il y avait ce duel Moonlight, La La Land, et tout le monde pensait que La La Land, qui d'ailleurs avait eu l'Oscar du meilleur réalisateur, enfin plein de récompenses avant, aurait la récompense finale, tout le monde pronostiquait sur le film. Et c'est vrai que là, on parlait de l'influence politique, un peu, alors peut-être pas sur la fabrication de Moonlight, mais en tout cas sur sa réception. C'est évident, si Moonlight a eu l'Oscar du meilleur film, bon, c'est d'abord parce que je pense que c'est un bon film, enfin personnellement c'est un film que j'ai beaucoup aimé, peut-être pas autant que La La Land, après c'est vrai que c'est très différent, et puis surtout c'est un film qui arrive, qui dans l'air du temps, dit énormément de choses.
Et puis ça arrive deux ans après un scandale où comme quoi personne, il n'y avait pas de réalisateur ou de film noir, où il y avait aux Oscars, donc c'était le bon moment aussi.
Oui, mais au-delà de ça, pour parler de cinéma justement, Moonlight a une vision de cinéma beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pertinente que Get Out sur
mais Moonlight, ça reste un film qui est quand même plutôt... Enfin, Get Out aussi, ce qui est bien de voir, c'est l'impact culturel, en toute modération, parce que c'est, je pense que c'est plus aux USA qu'en France, et je ne me rends pas bien compte, du coup, par rapport aux US, voilà. Mais comparé à Moonlight, il reste quand même plutôt un film plutôt, pas confidentiel, mais un peu un film d'auteur. Je veux dire, je vois pas le mec de base aux USA aller voir Moonlight. Alors que Get Out...
Justement.
Je vais vous dire, alors que Get Out, justement, c'est un film qui, dans l'air du temps actuel, a su prendre le ton pour se faire voir.
On oublie quand même un film là qui est Détroit de Catherine Bigelow aussi, justement, sur cette question,
après, l'aspect intéressant de Get Out, c'est plus le film en lui-même. Là, je parle en termes juste de qualité de film où je trouve que c'est surestimé, mais par contre l'angle du racisme tel qu'il est abordé dans le film, je trouve super intéressant parce que c'est le racisme à l'envers, quoi. C'est le fantasme qu'ont des blancs de gauche bien pensants sur ce qu'est une personne noire. Donc cet angle-là est intéressant.
Voter Obama, c'est hyper savoureux.
C'est ça, quoi.
Je sais pas comment ça s'est accueilli dans les salles aux États-Unis.
Mais ça, à la télé, ça a été fait depuis 10 000 ans, quoi.
Même
Peele l'a fait à la télé.
Le problème, c'est que Jordan Peele, il fait ça dans ses sketchs depuis 10 ans à peu près. Et moi qui suis justement ses sketchs.
Ouais, mais au cinéma, on n'avait pas eu de film qui.
Voilà, par exemple, South Park l'a fait il y a 15 ans, quoi.
Mais oui, voilà. Pour moi, il n'y avait absolument rien de.
On s'en fout vraiment de Détroit, en fait.
Non, Détroit. Moi j'ai aimé Détroit parce que justement.
Est-ce que c'est mineur? Est-ce que c'est...
Non, parce qu'il y a une autre vision.
Comparé à Moulin Tiguetta, ce serait mineur.
Justement, Catherine Bigelow, elle s'empare de questions d'actualité. Et elle enfin maintenant aussi.
Mais Polanski, est-ce que c'est mineur?
On y arrive.
Et Détroit se pose.
Sujet du américain.
Et Détroit se pose essentiellement des questions de cinéma et non pas d'actualité. Justement, c'est ce qui a porté préjudice à Catherine Bigelow, je pense, c'est qu'elle est plus occupée à essayer de mettre en scène et à faire ressentir les émotions des personnages qu'à penser à quelle est la réception des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser.
Mais du coup, tu prends pas comment, un sujet comme ça, comment parle juste de cinéma.
C'est une formaliste, Bigelow.
Si, justement, parce que c'est que par l'émotion cinématographique que tu peux faire ressentir l'injustice qu'ils ont vécue, et en te posant des questions de mise en scène, de montage, et de qu'est-ce que ça va donner.
Donc rien que dans ce qu'il dit, c'est l'art plus intéressant de Get Out.
Et pas justement des questions de posture et de position.
Mais comme pour Get Out, c'est le timing du film, en fait, qui fait qu'on parle de la question noire.
Non, moi je pense que justement, s'il n'y avait pas eu l'actualité, on aurait plus parlé de Détroit que de Get Out.
Mais moi je parle juste d'un point de vue formel, genre juste du film. Je trouve que Get Out, ça reste une série B, c'est pas le contraire, mais bordel, c'est la meilleure série B que j'ai vue depuis très longtemps.
Oui, non,
c'est
mais.
Extrêmement ludique, la sœur, enfin j'ai vu dans une salle, c'est peut-être un moment où il y a beaucoup de gens qui venaient qui avaient envie de s'amuser, mais c'est un des films où j'ai eu le plus de réactions du public.
Oui, moi aussi.
Où j'ai vu, il y a eu une effervescence
dans le genre, film d'horreur un peu marrant parfois, etc., qui a quand même des bonnes scènes qui font bien, qui foutent bien les boules, etc. Moi je trouve que c'est un des meilleurs films.
Non, mais moi je suis d'accord,
entre guillemets, qui fonctionne très longtemps. C'est un genre le film d'horreur aussi. Parce que ça marche de genre, mais c'est moins bien que les auteurs.
Je m'en fous.
Le rebelle, putain.
C'est pas parce que c'est un film. C'est parce que c'est un film de genre que c'est moins bien que Catherine Bigelow, l'auteur. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi.
Non, mais pour moi, Catherine Bigelow se pose des questions plus pertinentes que Jordan Peele.
Mais Jordan Peele a été plus accueilli comme
le mec, il a fait la couverture des cahiers du cinéma.
Et pour vous dire, c'est pas exemple qui va.
Il est dans leur top 10.
Non,
j'ai mérité, bordel.
Pardon.
C'est
c'est pas le même auteur que les deux auteurs investissent aussi.
Par exemple, dans le cahier, ils ont mis en parallèle, ça veut dire dans le cahier du cinéma, à l'époque, ils ont mis Get Out et Raoul Peck. Raoul Peck, une page, Get Out, trois pages ou quatre pages. Et ça, je n'ai absolument pas compris. Alors que le film de Raoul Peck, en termes de cinéma, est bien plus intéressant que Get Out sur tous les plans, tous les niveaux. Le film de Raoul Peck beaucoup plus fascinant et dit beaucoup plus de choses. Et même en termes de cinéma, je trouve ça, c'est pas possible.
En fait, il n'y a pas d'aspect militant dans Get Out.
Il n'y a pas d'aspect militant.
Enfin, en tout cas, ça a été récupéré comme ça.
Non, pour moi, c'est très premier degré. C'est pas premier degré, Get Out.
C'est pas premier degré. Get Out. T'as vu l'intro de Get Out?
Premier degré. La première scène de Get Out est quand même programmée.
Mais après, oui, t'as vu comment le film commence?
Après, il a des tours. Il a des tours aux États-Unis.
Il a des tours. Parce que le personnage réapparaît après.
Mais là, t'as quand même une.
C'est le cauchemar absolu.
Après, si. Mais justement, dans le cauchemar, t'as quand même une espèce d'excentricité, il revient au genre en permanence, en fait. Il questionne cette question-là.
Oui, mais c'est pas une excuse de se cacher dans le genre.
Ce que vont pas faire Raoul Peck ou même Catherine Bigelow. C'est beaucoup plus dans le... C'est pas la même manière d'investir le genre, en fait.
Sur, c'est pas les mêmes genres, mais du coup, sur la question du documentaire, de la question des images d'archives, etc., chez Peck, la question de la reconstitution historique...
Les textes aussi. Comment utiliser le texte original.
Cinéma.
Mais c'est pas la même manière d'aborder, c'est ça que je veux dire.
Faut quand même pas oublier que, spoiler, la fin originale de Get Out qui a été changée par les studios et par le réal, parce que trop négative par rapport au film, c'était qu'au final, quand les flics arrivent à la fin, c'est pas son pote, c'est un vrai flic.
Ça aurait dû se terminer comme ça.
Ça aurait été une vraie fin de film d'horreur, ce que le film se revendique à la base.
Bien sûr.
C'est une fin très militante.
Si le flic à la fin finit en prison,
il y a toujours une légèreté dans Get Out, même si ce qui est
rare. Oui, mais le genre est intrinsèquement politique.
Ça a l'air d'être du militantisme un peu light, quoi, quand même, non?
Il y a un côté light, mais c'est pas déplaisant.
Bah oui, mais parce qu'un militantisme violent actuellement, aux USA,
parce que Carpenter est une série B,
Carpenter
est un truc de violent parce que tu vénères, quoi.
Regarde, si tu veux comparer Get Out, on compare Get Out à Day Live, c'est le même principe. Mais Day Live, Carpenter, il se cache pas.
Ce qui dessert le film, c'est qu'on l'a porté sur un piédestal, justement, d'objets militantiques, de militantisme par rapport à la condition.
C'est
que
lui, il veut que ce soit ça.
Mais non,
mais suis-le sur Twitter, suis-le sur. Suis les déclarations de Jordan Peele. Regarde ce qu'il dit.
Mais il est fier, lui, hein, il est fier.
Oui, lui, ah oui, il sait ce qu'il pourquoi il l'a fait, il sait ce qu'il représente.
C'est pas ce que donne l'impression.
Non, mais peut-être c'est le fait, c'est l'accueil critique qui fait qu'il réagit.
Il sait très bien. Jordan Peele et son compère là, ils savent dans leur sketch, ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils connaissent leurs effets.
Mais ils viennent quand même
de la comédie ultra acerbe. Justement, tout leur sketch se base sur ça.
Quand tu les suis sur Twitter ou quand tu les vois dans d'autres trucs, ils valent pas mieux que leurs persos blancs là qui votent Obama. Hein. C'est un peu les mêmes. Hein.
Non, mais de toute façon, Jordan dit quoi.
Ah voilà.
Ils ont toujours eu un humour politique, etc. Une vision cinématographique de leur sketch qui faisait déjà à la télé, etc. Mais ça va pas plus loin, justement.
On va s'arrêter sur Get Out. On va faire une petite pause car ça fait déjà 45 minutes qu'on parle de cinéma américain.
On a parlé cinéma d'animation, on n'a pas parlé de Coco.